VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Sous pression depuis le récent crash mortel d'Ethiopian Airlines, les États-Unis ont décidé hier de clouer au sol tous les Boeing 737 MAX.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi suspend un ministre de son prédécesseur Joseph Kabila et libère des prisonniers politiques.
Au Nigeria, l'effondrement d'un immeuble abritant une école dans un quartier populaire de Lagos fait au moins 8 morts.
Ici à Washington, le Sénat, sous contrôle républicain, exige du président Donald Trump l'arrêt de tout soutien à la coalition saoudienne combattant les rebelles houthis au Yémen.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le président Donald Trump a annoncé hier que tous les Boeing 737 MAX 8 et MAX 9 vont être cloués au sol ici aux États-Unis. Washington était sous pression depuis le crash dimanche du Boeing d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous allons décréter en urgence l'interdiction de tous les vols des 737 MAX 8 et 737 MAX 9, a déclaré Donald Trump. Le président américain a ajouté que la sécurité des Américains et de tous les passagers est sa priorité absolue. Cette décision de Trump est intervenue après celle du Canada qui, jusqu'à hier, était le seul pays à accompagner les Américains dans leur refus de suspendre des airs cet aéronef. Le constructeur américain Boeing a assuré avoir une confiance totale à la fiabilité et la sécurité du 737 MAX, mais dit soutenir la décision des États-Unis de le clouer au sol. Par ailleurs, les boîtes noires du Boeing d'Ethiopian qui s'est écrasé dimanche seront transférées ce jeudi au bureau d'enquête et d'analyse français pour y être analysées. Le bureau d'enquête sur les accidents aéronautiques allemands avait plutôt affirmé ne pas avoir les moyens techniques d'examiner les boîtes noires. Le crash qui a fait 157 morts est le deuxième en moins de 6 mois d'un Boeing 737 MAX 8 après celui d'octobre dernier de la compagnie indonésienne Lion Air qui a fait 189 morts.
En République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi gracie plusieurs centaines de prisonniers politiques et d'opinion conformément à des promesses électorales. M. Tshisekedi a également suspendu pour, je cite, « mégestion et insubordination » un membre du gouvernement et quelques responsables d'entreprises publiques. Le point avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Environ 700 détenus bénéficiant de cette grâce présidentielle sont remis en liberté. Parmi eux, l'opposant Frank Diongo, arrêté en 2016 et condamné à 5 ans de prison pour séquestration de 3 militaires de la garde républicaine, ainsi que l'activiste des droits de l'homme Firmin Ngambi, condamné à mort en 2010 par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour détention illégale d'armes de guerre et tentative d'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Ils faisaient tous deux partie des deux cas dits emblématiques des prisonniers politiques sur lesquels l'opposition insistait depuis 2016. Un autre opposant, Eugène Diomine Dongala de la démocratie chrétienne, condamné lui pour viol sur mineur, bénéficiera d'une liberté conditionnelle, probablement ce jeudi 14 mars, après la signature d'un arrêté par le ministre de la Justice, a indiqué Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État, intervenant mercredi soir à la télévision nationale. Dans la même série de décisions, le président Félix Tshisekedi a ordonné la suspension pour mauvaise gestion et ou insubordination de Maître Loumé Adoumalegui, ministre des Affaires foncières du gouvernement sortant, qui est également traduit devant la justice, du président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ainsi que des directeurs général et directeur général adjoint de la Société congolaise des transports et ports ex-Onatra. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Niger, le Parlement nie avoir des liens avec un certain Mohamed Sidi Ahmed, arrêté le week-end dernier avec 3 autres suspects lors d'une saisie record de cocaïne en Guinée-Bissau. L'homme a été présenté comme un conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Niger. De Niamey, les précisions de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
L'information a suscité une grande indignation au sein de l'opinion. Qu'un conseiller du président de l'Assemblée nationale soit impliqué dans une affaire de trafic de cocaïne ternit gravement l'image du pays selon beaucoup de citoyens. Mais l'institution parlementaire, par la voix de son secrétaire général Boubacar Tiémogo, se défend. L'Assemblée nationale ne saurait ni de près ni de loin être associée à cette affaire.
L'intéressé, ça n'est pas un familier de l'institution. Ça n'est pas un familier du président. Alors pas du tout. Toutes les institutions politiques ont toujours eu de leur sillage un certain nombre de conseillers, de chargés de mission, mais pour autant, leurs actes n'engagent pas l'institution. Donc si ces faits sont avérés, l'Assemblée nationale ne saurait en quoi que ce soit être impliquée dans cette question.
Selon le secrétaire général de l'Assemblée nationale, le badge portant inscription conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale que portait Mohamed Sidi Mohamed servait juste de carte d'accès au Parlement, pas plus. Abdelrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
En Guinée-Bissau même, le PAIGC semble bien placé pour former une coalition gouvernementale après l'annonce hier des résultats provisoires des législatives remportés par ce parti historique en confrontation depuis plus de 3 ans avec le président José Mario Vaz. La crise a éclaté en août 2015 après que M. Vaz a limogé son premier ministre de l'époque, Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC.
Au Nigeria, un immeuble de 4 étages abritant une école s'est effondré hier à Lagos Island, un quartier populaire de la capitale économique nigériane, faisant de nombreuses victimes, dont des enfants pris au piège dans les décombres. 37 personnes ont été sorties vivantes et 8 personnes ont été retrouvées mortes, a annoncé dans un communiqué hier soir un responsable de l'agence de gestion des urgences de l'État de Lagos. D'autres détails avec Irénée Herman Ungbo.
Une marée humaine entourait les lieux de l'accident près du marché Itafaji, pendant que la Croix-Rouge nigériane et l'Agence nationale de secours tentaient de dégager des victimes. Le dernier étage de l'immeuble abritait une école maternelle et primaire. Au moins un enfant a été évacué mort des décombres. Derrin, un jeune du quartier ayant participé aux opérations de sauvetage sur le toit de l'immeuble, a affirmé qu'au moins 10 enfants étaient encore dans les gravats à la mi-journée, apparemment en vie. L'effondrement s'est produit en début de matinée. Tiné confie un témoin au Lamine Nousba. On était dehors en train de fumer quand on a vu l'immeuble tomber. Dans la foule, des parents en pleurs criaient et pleuraient, implorant qu'on sauve leurs enfants.
En Algérie, le gouvernement tente d'apaiser les esprits. Le nouveau vice-premier ministre Ramtane Lamamra a assuré hier que le président Abdelaziz Bouteflika n'a pas reporté la présidentielle et prolongé de fait son mandat pour rester au pouvoir.
C'est parce que le scrutin était source de division des Algériens, a expliqué le nouveau vice-premier ministre Ramtane Lamamra. Il ne s'agit pas de rester au pouvoir pendant quelques semaines ou quelques mois de plus, a dit Lamamra, indiquant que la priorité absolue est de réunir les Algériens, de leur permettre d'aller ensemble vers un avenir meilleur. Le président Bouteflika a reporté lundi la présidentielle prévue le 18 avril jusqu'à un prochain scrutin que devra organiser une conférence nationale chargée auparavant de réformer le pays et de le doter d'une nouvelle constitution. Le caractère illégal ou anticonstitutionnel de cette prolongation a été réfuté. Il s'agit de garantir la stabilité et le fonctionnement normal des institutions durant le chantier de la transformation de la société, de l'élaboration de la nouvelle constitution et de l'avènement de ce nouveau système, a souligné le vice-premier ministre Ramtane Lamamra. Il a aussi précisé que le nouveau gouvernement sera marqué par un renouvellement substantiel et l'arrivée de nouveaux visages, notamment femmes et jeunes. Enfin, la conférence nationale sera organisée autour de 3 blocs, partis et organisations de la mouvance présidentielle, opposition toutes tendances confondues et celles non représentées au Parlement et société civile dans l'acceptation la plus large du terme. L'ex-diplomate Lakhdar Brahimi a démenti hier sans fermer la porte à cette éventualité avoir été nommé président de la future conférence nationale qui devra aussi organiser la prochaine présidentielle.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le Sénat a défié hier le président Donald Trump et voté pour couper le soutien des États-Unis à la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles chiites houthis au Yémen. 7 membres du parti républicain de M. Trump se sont joints aux démocrates pour approuver par 54 voix contre 46 la résolution qui doit maintenant être soumise à la Chambre des représentants dominée par les démocrates.
La saga du Brexit se poursuit en Grande-Bretagne après le rejet hier soir par les députés britanniques de l'option d'une sortie de l'Union européenne sans accord. La première ministre Theresa May soumet au vote aujourd'hui une motion proposant d'organiser d'ici au 20 mars un nouveau vote sur l'accord de divorce qu'elle a conclu avec l'Union européenne. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement ivoirien veut appuyer 40 000 femmes à l'horizon 2021 dans les filières cacao, karité, anacarde, manioc et maraîchage. Selon l'agence Ecofin, ce soutien qui veut renforcer l'autonomisation des femmes sera octroyé à travers diverses initiatives. D'une durée de 4 ans, ce projet devrait mettre un accent particulier sur le beurre de karité avec un accompagnement dans la certification biologique. L'Agence française de développement débloquera 38 milliards de francs CFA au profit de 2 projets dans l'agriculture et l'énergie au Burkina Faso. Le site Sidoya indique que cette initiative entend améliorer, entre autres, l'accès des coopératives agricoles au marché institutionnel. Elle entend aussi construire une ligne de très haute tension longue de 381 km et une ligne de 24 km reliant la frontière nigérienne au poste de transformation de Ouaga Est et assurer la liaison Ouaga Est, Ouaga Sud-Est et le raccordement à la ligne Ouaga-Bolga-Tonga. Pour finir cette minute écho, l'Arabica vient de sombrer à son plus bas niveau depuis 13 ans à New York, s'établissant à 94,35 cents la livre. Selon Ecofin, cette dégringolade s'explique surtout par la perspective d'une récolte plus abondante au Brésil, alors que les experts prévoient un surplus sur le marché pour une deuxième année consécutive avec 2,28 millions de sacs en 2018-2019.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Europa League ce soir.
Oui, Rennes, porté par Artem Ben Arfa, est attendu à Londres pour tenter de valider son ticket pour les quarts de finale face à Arsenal. Le club français a obtenu une renversante victoire 3-1 à l'aller. Chelsea voudra éviter à Kiev un accident industriel façon Paris Saint-Germain. Même situation pour les Italiens de Naples qui ont eux aussi remporté à domicile 3-0 leur match aller face aux Autrichiens de Salzbourg. Autre club en position favorable, le sous-marin jaune de Villarreal, qui a été s'imposer à l'extérieur 1-3 lors d'un match aller à Saint-Pétersbourg. La situation est en revanche plus périlleuse pour les Espagnols de Séville, qui se rendront à Prague après avoir concédé un match nul 2-2 à domicile face au Slavia, tout comme pour les Interistes qui ont encore tout à faire à Milan après le 0-0 de l'aller contre Francfort.
Suite et fin des huitièmes de finale retour en Ligue des Champions hier.
Oui, Lyon a été corrigé 5-1 avec un doublé et une passe décisive de Lionel Messi à Barcelone. En plus de la Pulga, Coutinho, Piqué et Dembélé ont marqué pour le Barça, qualifié pour les quarts de finale. Le finaliste de la saison dernière est toujours là, accroché à l'aller 0-0. Liverpool s'est qualifié en s'imposant face au Bayern Munich 3-1, grâce notamment à un doublé de l'international sénégalais Sadio Mané. Le tirage au sort pour les quarts de finale est prévu pour demain.
L'UEFA a ouvert une enquête disciplinaire sur Neymar.
Cette enquête visant la star du Paris Saint-Germain concerne ses vives critiques à l'encontre de l'arbitrage lors de l'élimination de son club en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. C'est une honte, ils mettent 4 gars qui n'y comprennent rien au foot pour revoir le ralenti, a écrit le Brésilien sur les réseaux sociaux après recours à la vidéo pour accorder un pénalty à Manchester United, vainqueur 3-1. Les sanctions peuvent prendre la forme d'une amende ou d'une suspension pour des matchs la saison prochaine.
Basketball, on connaît les confrontations de l'élite 2028 de la FIBA Africa.
Oui, on aura un duel entre les clubs tunisiens de l'étoile sportive de Rades qui a dominé le groupe B à Cotonou et la JS Kairouan, arrivée seconde du groupe A à Rabat. Champion d'Afrique en titre, l'AS Salé du Maroc sera opposé aux Civil Defenders du Nigeria. Gros match en perspective entre Al Ahly et Soumoua d'Égypte dans un autre duel 100% national. Enfin, le match Petro de Luanda et Primeiro Agosto vaudra son pesant d'or. Ces matchs de l'élite 8 se joueront en aller-retour du 22 mars au 14 avril prochain. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Washington et Orlando 100-90, Oklahoma City et Brooklyn 108-96, Miami et Détroit 108-74, Atlanta et Memphis 132-111, Golden State et Houston 106-104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédounia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président Donald Trump a donc annoncé hier que tous les Boeing 737 MAX 8 et 9 vont être immédiatement cloués au sol ici aux États-Unis. Le gouvernement américain, comme vous le savez, était sous pression depuis le crash dimanche du Boeing d'Ethiopian Airlines qui a fait plus de 150 morts. Écoutons Morgan Guiriek et Timothée Donangmaï.
Suite à cet accident de l'appareil d'Ethiopian, de nombreux pays ont ordonné l'arrêt de l'exploitation des Boeing 737 MAX 8 et 9. À leur tour, les États-Unis leur ont emboîté le pas mercredi, une mesure d'urgence annoncée par le président Trump. Toutes les compagnies aériennes ont été notifiées et toutes sont d'accord avec cette décision. La sécurité des Américains et celle de tout le monde est notre préoccupation primordiale, a expliqué Donald Trump. Les États-Unis sont le pays le plus sûr en matière de transport aérien et nous voulons maintenir cette réputation, a ajouté le chef de l'exécutif américain en assurant que Boeing est une compagnie formidable qui travaille dur pour détecter le problème et entraîner le crash de deux Boeing 737 MAX en l'espace de 6 mois et y trouver solution. La décision de clouer au sol les Boeing 737 MAX 8 et 9 est une mesure de précaution qui permettra de mener des enquêtes et d'examiner les données des boîtes noires de l'appareil éthiopien ainsi que les communications de l'équipage, a fait savoir dans un communiqué la Federal Aviation Administration, l'agence fédérale américaine en charge de l'aviation civile. Le patron de cette agence a dit qu'il ignore la durée de cette mesure, mais il a révélé que les boîtes noires de l'avion d'Ethiopian Airlines seront envoyées en France.
Mais alors Tim, pourquoi les États-Unis agissent-ils maintenant?
Eh bien Morgan, la question a fait l'objet d'un vigoureux débat ici aux États-Unis. Eh bien le fait est que plus de 40 pays du monde, notamment l'ensemble de ceux de l'Union européenne, ont décidé de clouer au sol les Boeing 737 MAX, l'un des tout derniers pays à joindre ce mouvement. Et le voisin du Nord, le Canada. La décision américaine a suivi. Il faut dire que des liens très étroits unissent les systèmes aériens américains et canadiens, si bien qu'une décision dans un pays affecte forcément. Alors, il faut dire, Morgan, que certaines compagnies américaines avaient pris les devants en décidant volontairement de clouer au sol leurs appareils 737 MAX. C'est le cas d'American Airlines qui exploite 24 de ses aéronefs et qui a annoncé être en train de travailler d'arrache-pied pour placer ses passagers sur d'autres types d'avions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, nous rappelle notre correspondant sur place, des témoins l'avaient déjà confié à VOA Afrique il y a un mois. L'armée burkinabé a perpétré début février des exécutions sommaires. En ont été victimes une soixantaine de civils, c'est ce qu'a annoncé hier. À Ouagadougou, à son tour, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Sur les 146 terroristes présumés que l'armée avait annoncé avoir neutralisés, se trouvait donc une soixantaine de villageois. Précision de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Nous sommes début février à Ouagadougou. L'armée, à travers un communiqué, annonce que les forces armées burkinabées ont neutralisé 146 terroristes et enregistré quelques blessés légers dans leurs rangs au cours d'une opération menée à Kin, Ban et Bomboro dans les régions du Nord et de la boucle du Moon. Une opération qui venait en riposte à 14 civils tués le même jour à Kin. Eh bien, plus d'un mois après, le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits humains, s'est rendu sur le terrain. Son rapport est accablant.
Le rapport n'invente rien, ce n'est pas un roman. C'est un rapport qui recense ce que nous avons pu voir et les témoignages que nous avons pu entendre de la part des parents des victimes de ces personnes exécutées.
Chrysogone Zougoumouré, président du MBDHP.
Les localités ayant été indiquées, nous sommes rendus sur le terrain. Nous avons pris tout le temps pour aller sur le terrain, enquêter, investiguer. Nous avons même ramené des éléments de preuve à savoir des balles, des douilles de balles. Et il relève de ce que nous avons pu constater sur le terrain qu'il y a eu des cas d'exécution sommaire sur au moins 60 personnes sur les 146 qui ont été annoncées dans le communiqué de l'état-major.
Ces exécutions sommaires et extrajudiciaires sont suffisamment graves, affirme le mouvement, craignant que cela ouvre la voie à toutes les dérives possibles et à une certaine stigmatisation de toute une communauté. Les Peuls majoritairement touchés. Chrysogone Zougoumouré, président du MBDHP.
Nous déplorons donc que sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, on en vienne à poser des actes qui peuvent aggraver la situation. Parce que si vous prenez le cas de Cagne et de Ban, etc., lorsque vous regardez la liste des victimes que nous avons recensées, ce sont des personnes qui portent des patronymes essentiellement peuples. Ça peut créer un sentiment de stigmatisation de la part de cette communauté.
Tuer des populations civiles, ce n'est pas cela la lutte contre le terrorisme.
Vous pensez que c'est comme ça on lutte contre le terrorisme?
Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP.
Toutes les personnes qui ont été victimes n'ont pas été assassinées. Il y en a qui sont blessées et qui se soignent dans des hôpitaux. Mais dites-moi, un terroriste qui est blessé et qui se soigne à Yalgado, la police va l'interroger, qu'est-ce que tu as eu? Il dit c'est des balles. Qui t'a tiré dessus? Il dit je ne sais pas. Parce qu'il a peur de dire c'est des militants. On le laisse. Et jusqu'aujourd'hui, des gens sont en train de se soigner parce qu'ils ont reçu des balles. Si c'est effectivement des terroristes, je pense qu'ils ne seraient pas en liberté en train de se soigner dans un hôpital. C'est des questions qui nous suscitent en nous des interrogations.
Avant le MBDHP, plusieurs témoins avaient indiqué à VOA Afrique que l'armée avait tué des dizaines de civils. Le gouvernement burkinabé, par la voix de son porte-parole, alors, avait rassuré que l'armée burkinabé était professionnelle pour commettre de telle bavure. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les États-Unis apportent leur soutien à la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Tibor Nagy, est arrivé dans la région ce mercredi. De Goma, la correspondance de Charlie Kasereka.
Les sous-secrétaires des États-Unis pour les affaires africaines étaient accompagnés de l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Il a offert plus de 1800 tonnes de nourriture et un lot de 434 mètres cubes d'équipement de protection pour les équipes médicales qui interviennent dans la riposte contre Ebola à Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Les vivres doivent atteindre les bénéficiaires dans les prochains mois, a promis le directeur du programme alimentaire mondial à Goma, Claude Jibida.
Le menu qui est ici répond aux besoins des gens sur le terrain. D'abord du maïs, du riz, des légumineuses, de l'huile, du sel. Mais aussi, c'est un menu qui correspond aux besoins nutritionnels des gens. Même jusque pour les enfants, il y a des denrées spécifiques qui sont prévues.
L'épidémie a déjà tué au moins 584 personnes. L'ambassadeur des États-Unis en RDC reste rassurant pour l'élimination de cette maladie. Mike Heimer.
Les États-Unis ont compromis avec le gouvernement congolais de l'aider, de soutenir les efforts contre l'Ebola. J'ai l'occasion de viager à Butembo avec le chef de Centers for Disease Control, que c'est possible aussi à travailler avec les communautés. Mais nous sommes à faire tout ça que c'est possible pour contrôler cette situation d'Ebola. Et c'est important de savoir que les États-Unis est compromis avec tous les problèmes de la santé pour l'améliorer au Congo. J'avais discuté avec le nouveau président, Félix Tshisekedi, comment les États-Unis peuvent soutenir les efforts pour améliorer la santé au Congo.
La lutte contre Ebola doit être globale et non seulement médicale et nécessite aussi une logistique logistique conséquente, a affirmé le sous-secrétaire d'État américain qui promet d'intéresser les pays voisins dans la riposte, Tibor Pitenadze.
Nous avons mobilisé les préparations aux pays voisins parce que Ebola, ce n'est reconnu pas les frontières entre les pays. Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda. So well, Ebola is not just a medical problem. It's also a food problem.
Ebola n'est pas seulement un problème médical, c'est aussi un problème alimentaire, de transport, un problème social et culturel. Vous ne faites aucun bien d'aborder le problème médical si le patient ne va pas avoir de la nourriture. Je tiens également à remercier les personnes impliquées à aider les malades.
Ces lots de plus de 1800 tonnes de nourriture et matériel de protection seront remis aux bénéficiaires d'ici la fin du mois, promet le directeur du Programme alimentaire mondial. L'EPAM est l'une des organisations avec lesquelles le gouvernement américain travaille pour la sécurité alimentaire et sanitaire en RDC. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Retour sur le Brexit, la première ministre britannique Theresa May soumet donc au vote aujourd'hui une motion proposant d'organiser d'ici au 20 mars un nouveau vote sur l'accord de divorce qu'elle a conclu avec l'Union européenne. Pour des observateurs, le Royaume-Uni, un pays sommé par les Européens de définir enfin ses choix pour l'avenir, est au bord du précipice. Après plusieurs votes défavorables au Parlement, la concrétisation du Brexit demeure plus incertaine que jamais. Comment sortir de l'impasse à 16 jours de la date historique du divorce et les jours de Madame May à 10 Downing Street sont-ils comptés? Des questions que Jacques Aristide a posées à John Henley, grand reporter au journal anglais The Guardian.
Elle est certainement affaiblie, mais pour l'instant, c'était beaucoup trop tôt pour dire que ces jours sont comptés. Il y aura deux votes supplémentaires cette semaine, donc un pour savoir si les députés veulent oui ou non un no deal, donc un sortie sans accord. Et ensuite, jeudi soir, il y aura de nouveau un vote sur une possible prolongation de la période de l'article 50. L'article 50, c'est les deux années de négociation qui permettent à un pays de sortir de l'Union européenne. On saura un petit peu plus à la fin de ces deux votes, mais pour l'instant, il y a plusieurs options qui restent ouvertes avant qu'on commence à parler de la fin de la carrière de Theresa May.
Mais d'après vous, quels sont les scénarios encore envisageables?
Je pense que la première possibilité, ce serait que Theresa May cherche à parler pour la première fois, plus ou moins, vraiment sérieusement avec l'opposition, avec le Parti travailliste et les autres partis d'opposition, sur un éventuel accord sur un Brexit à la norvégienne, comme on l'appelle, c'est-à-dire un Brexit qui laisserait la Grande-Bretagne beaucoup plus près de l'Union européenne que le Brexit envisagé par les Brexiteurs. Mais le problème avec cette approche, c'est que ça diviserait encore plus le Parti conservateur. Et un Parti conservateur divisé pourrait amener sans doute à de nouvelles élections qui pourraient à leur tour donc être gagnées par l'opposition. Donc ça, c'est une option compliquée pour Madame May à envisager. Également, ça c'est pareil, je pense, pour un deuxième référendum. Troisième option qui me semble plutôt possible, en fait, ou au moins plausible, ce serait en fait que Madame May revienne dans la Chambre des communes, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, mais elle pourrait tout à fait revenir avec ce même deal.
Quel est le sentiment général dans le pays? Que disent les Britanniques, le citoyen lambda?
Écoutez, le citoyen lambda, il en a tout simplement marre de tout ça. Il ne comprend pas pourquoi ça prend autant de temps. Le sentiment du public par rapport au Brexit a changé, mais pas énormément. Par contre, les entreprises, elles sont furieuses. Elles parlent d'irresponsabilité totale de la part du gouvernement, d'une incertitude qui rend leur business quasiment ingérable. Et plus vite ce processus de Brexit sera fini, plus contents ils seront.
Le journaliste britannique John Henley, joint à Londres.
Raïssa Girondin avec vous. Cette semaine, dans ce Washington Forum, la situation en Algérie. Après des semaines de manifestations, le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat. Il a reporté sine die l'élection présidentielle du 18 avril et entend se maintenir au pouvoir d'ici là. Les manifestants rejettent toute prolongation de son mandat. Manœuvre ou véritable retrait du président algérien, cette transition politique va-t-elle satisfaire l'aspiration du peuple qui, pour succéder à Abdelaziz Bouteflika, nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOAAfrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOAAfrique.